Maladies respiratoires bovines et immunité locale. Donc, le contenu de cette webconférence portera essentiellement sur trois points: les mécanismes protecteurs vis-à-vis des infections respiratoires, et ensuite les possibilités d'évaluer l'immunité respiratoire. Et je terminerai cette courte présentation par les modalités de la protection vaccinale. Donc, la survenue d'infections respiratoires dans un lot de jeunes bovins est généralement l'action concomitante de plusieurs facteurs, des facteurs favorisants, comme par exemple une modification des conditions atmosphériques avec une diminution de la température et dans des conditions d'hygrométrie élevées, des facteurs de stress, comme par exemple le stress du sevrage, mais aussi les transports de longue durée ou également les modifications des rapports sociaux au moment de l'allotissement, et des changements de la ration alimentaire ou des altérations, des insuffisances de l'abreuvement. Mais les facteurs déterminants dans l'apparition des infections respiratoires, c'est la présence d'agents pathogènes, qu'ils soient de nature virale ou bactérienne. Donc parmi les virus, ceux qui sont prépondérants sont le virus respiratoire syncytial bovin, le virus par influenza 3, le coronavirus bovin, mais aussi, et probablement de façon un peu moindre, le virus BVD, ou maintenant en France, le virus de l'IBR, le BHV1. Parmi les bactéries, celles qui sont prépondérantes, ce sont essentiellement les pastérelles, Manemia hemolytica, Pastorella multocida et Histophilus somni, et les mycoplasmes, avec une part variable selon les types d'élevage, et des infections plus opportunistes par Trouperella pyogenes ou même Escherichia coli. Plus que l'action indépendante de ces agents pathogènes, c'est la co-infection fréquente ou simultanée entre un virus et une bactérie qui est à l'origine de l'apparition des troubles les plus sévères. Donc, vis-à-vis de ces infections respiratoires, l'animal possède un certain nombre de mécanismes protecteurs qu'on considère au sens large dans l'immunité. Donc, l'organisation fonctionnelle de la réponse immunitaire se fait et est présentée généralement sous la forme de deux volets: l'immunité innée, qui met en œuvre des mécanismes de défense plutôt de nature physique, mais aussi des cellules de l'immunité innée, comme par exemple les cellules tueuses naturelles, les cellules NK, les gamma delta chez les bovins, et un certain nombre de facteurs solubles, dont le complément. Parallèlement à ce volet de la réponse, qu'on peut qualifier de non spécifique, il existe une immunité dite adaptative, acquise, qui fait appel à la fois aux cellules B productrices des différents isotypes d'anticorps, IgM au départ, puis IgG et IgA, mais aussi des cellules T, comme les lymphocytes TCD4 ou CD8. En réalité, ces deux modalités de réponse interagissent dès le début de la réponse immunitaire et elles échangent des dialogues, elles dialoguent en permanence au cours de la réponse. Bien plus qu'une organisation fonctionnelle, il existe au sein de l'appareil respiratoire une organisation étagée. Donc le système immunitaire respiratoire est différent en fonction que l'on s'intéresse aux voies aériennes supérieures ou au compartiment pulmonaire. Dans les voies aériennes supérieures, ce sont principalement des mécanismes physiques de protection associés à l'escalateur mucociliaire, à la sécrétion de mucus par les cellules spécialisées et cellules glandulaires, et c'est la présence de façon prépondérante d'immunoglobuline A, d'IgA, par rapport aux IgG, qui elles sont, les IgG étant prépondérantes, plus abondantes dans le compartiment pulmonaire. On retrouve également des cellules de l'immunité innée et de l'immunité adaptative dans ces deux régions, parties de l'appareil respiratoire, mais l'immunité adaptative domine dans la région pulmonaire de ce territoire. Donc, on voit que ces deux parties, les voies aériennes supérieures et le compartiment pulmonaire, ne sont pas indépendants, puisque en permanence, les cellules via le sang ou la lymphe sont échangées entre ces différents territoires et des cellules qui ont été initiées dans les voies aériennes supérieures, dans les cavités nasales, dans l'oropharynx, ont la capacité de se relocaliser dans les territoires profonds, territoires pulmonaires, où la densité des tissus lymphoïdes est plus faible. De ce fait, on a un système de patrouille en continu au sein de l'appareil respiratoire pulmonaire. Donc, lors de la survenue de signes cliniques respiratoires, c'est qu'il y a eu une altération de ces mécanismes de défense. Cela peut être lié à une réduction de la clairance microbienne, par exemple à la suite de la diminution de la mobilité de l'escalator mucociliaire, à cause d'une infection virale par exemple, ou bien de l'altération des propriétés du mucus en raison d'une déshydratation par exemple qui augmente sa viscosité. Mais c'est principalement la diminution des défenses cellulaires et ou moléculaires qui sont à l'origine de la survenue des troubles respiratoires. Donc c'est par exemple une diminution de certains facteurs solubles, de certaines cytokines, dont les interférons, ou la diminution de la production d'anticorps. Mais c'est aussi et surtout la diminution du recrutement de cellules capables d'éliminer les agents infectieux, virus ou bactéries, à la suite d'un défaut de localisation des neutrophiles ou de macrophages, par exemple sous l'action des glucocorticoïdes, mais aussi et surtout à la suite d'une diminution de leur capacité bactéricide, que ce soit une diminution de la phagocytose ou de la capacité à tuer les agents infectieux. Donc ça peut être le résultat de l'action de différents facteurs, qu'ils soient endogènes ou exogènes, comme par exemple l'ammoniac atmosphérique. Donc, est-il possible d'évaluer a priori l'immunité d'un animal vis-à-vis de ces infections? En fonction de la nature des germes, la réponse est un peu différente. Si on s'intéresse au virus, tout d'abord, effectivement, la présence traduit la survenue d'une infection, puisqu'il n'y a normalement pas de portage chronique, à l'exception de l'infection permanente par le virus BVD ou de la réexcrétion du virus de l'IBR, le BHV1. Donc, les anticorps, et notamment ceux d'origine colostrale, sont associés à une protection clinique, mais qui reste très partielle. Par contre, lorsque l'on détecte des anticorps séroneutralisants vis-à-vis du virus RSV ou PI3, ces anticorps séroneutralisants sont généralement associés à une immunité, lorsqu'ils sont associés à une immunité active, sont généralement associés à une bonne protection clinique. Donc la présence d'anticorps séroneutralisants traduit généralement une bonne immunité vis-à-vis de ces virus. Pour les bactéries, la situation est un peu différente. On sait qu'effectivement, il peut y avoir un portage nasopharyngé. Environ 30% des jeunes bovins ont des pasterelles, dont Manemia hemolytica, dans les cavités nasales. Donc, cette présence est probablement à l'origine de la production d'anticorps. Mais la détection d'anticorps vis-à-vis des pasterelles n'est pas prédictive d'une protection. Et actuellement, il est impossible par des techniques simples, comme la sérologie par exemple, de prédire l'immunité et la protection clinique vis-à-vis des infections bactériennes. Par la vaccination, il est possible d'augmenter les capacités de défense vis-à-vis de ces infections. Et selon le compartiment auquel on s'adresse, que ce soit le compartiment systémique ou l'immunité muqueuse, les mécanismes mis en jeu sont un peu différents. Donc par exemple, la vaccination avec un vaccin tué, qui nécessite impérativement la présence d'un adjuvant, va principalement initier une réponse de type lymphocytaire T et lymphocyte CD4 qui va stimuler la production d'une réponse anticorps de type IgG. Par contre, le compartiment lymphocytaire CD8, qui est une autre modalité de la réponse antivirale, est lui beaucoup moins bien mobilisé par ce type de vaccination. À l'inverse, Lorsqu'on utilise comme vaccin un vaccin contenant un agent vivant, capable de se multiplier, et que cet agent est appliqué, par exemple, dans les cavités nasales, il va pouvoir se répliquer dans les cellules épithéliales et pris en charge par les cellules du système immunitaire, il va initier une diversité de réponses qui est beaucoup plus grande qu'un vaccin tué. Donc on va avoir ici initiation d'une réponse lymphocytaire CD4 qui va pouvoir éduquer comme précédemment la production d'anticorps IgG, mais aussi, et c'est particulier à cette approche, d'immunoglobuline A sécrétoire présente à la surface des muqueuses et qui constitue une barrière de défense vis-à-vis des infections virales. Par ailleurs, les lymphocytes CD4 induits sont capables d'éduquer aussi une réponse cytotoxique de bonne intensité qui va pouvoir participer à la lyse des cellules infectées et donc stopper beaucoup plus efficacement l'infection. Donc on voit donc que le système immunitaire est capable de protéger l'appareil respiratoire vis-à-vis des infections respiratoires par des mécanismes qui font appel à la fois aux acteurs de l'immunité innée mais aussi de l'immunité adaptative, que la survenue de signes cliniques et respiratoires est la conséquence de l'altération de ces mécanismes de défense. Et l'objectif de la vaccination, c'est de stimuler l'immunité adaptative afin de protéger l'organisme vis-à-vis de ces infections respiratoires et de la survenue des maladies respiratoires. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé et vous remercie de votre attention.
Les mécanismes de la réponse immunitaire sont quelque chose de très complexe et donc cet exposé présente un grand intérêt dans le rappel des mécanismes de l'immunité locale et générale lors d'agressions par des pathogènes respiratoires des bovins.
Alors pour moi, l'élément important à retenir, c'est les échanges qu'on peut avoir au niveau de l'immunité entre les voies respiratoires supérieures et les voies respiratoires inférieures. Donc c'est un aspect de l'immunité que je connaissais pas, que j'ai découvert via l'exposé. Et c'est vrai que ça justifie pour moi encore plus l'utilisation des vaccins par voie intranasale qu'on utilisait déjà assez facilement. Et ça confirme que c'est vraiment intéressant du coup, même pour les protections locales du poumon en tant que tel.
Alors personnellement, avec mon expérience, je pense que le bâtiment est quelque chose de prépondérant déjà par rapport aux maladies respiratoires. Néanmoins, encore dernièrement à la mise à l'herbe, j'ai pu observer des signes de RS clinique sur des animaux dans un modèle extensif. Le problème du bâtiment, c'est qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on appelle la surface, ce que j'appellerais la surface utile réelle, c'est la surface où vit réellement le veau, qui est complètement différente des valeurs calculées zootechniquement. Donc si on considère qu'il y a une place nécessaire pour un veau, si le bâtiment a la bonne taille, ce n'est pas pour ça que la zone utile est la bonne. C'est-à-dire que s'il y a trop de courant d'air, par exemple, les veaux ne vont pas aller dans certains endroits, donc la surface utile va être diminuée. Ils vont se confiner tous à certains endroits, ce qui va faire une augmentation des déjections à ces endroits-là, une augmentation de l'ammoniac, un facteur irritatif qui peut entraîner des baisses de l'immunité au niveau des sphères oropharyngées.
La qualité et le fonctionnement des bâtiments est un de ces facteurs, mais ce n'est pas le seul. À cet égard, les engraisseurs italiens l'ont bien compris. Car même si les conditions de transport ont changé, se sont améliorées, les conditions de transport et d'allotement se sont bien améliorées, les animaux qui voyagent sur des transports de longue durée sont soumis à un énorme stress. Et donc, pour réduire l'incidence des pathologies respiratoires, outre une vaccination, les engraisseurs italiens ont mis en place tout des mesures de gestion de ces facteurs de stress. Déjà, à l'arrivée, les animaux ont une transition alimentaire sur 3 semaines. Et les 5 premiers jours, ils n'ont que du foin, aucune ration acidogène. L'autre sujet qui semble très important, c'est la gestion de l'abreuvement des animaux, puisqu'il n'y a plus d'abreuvoir dans les cases d'engraissement, mais des bacs d'eau où tous les animaux peuvent boire en même temps. Et avec cette gestion des facteurs de risque, ils ont diminué l'incidence de leur pathologie respiratoire de 15 à 30% en fonction des ateliers.
Plus nouveaux seront mal, auront froid ou un peu trop en courant d'air, ça aura un impact direct. Et je pense que l'état de santé, notamment lié à des maladies concomitantes, je pense à la coccidiose ou des erreurs alimentaires, de l'acidose ou de l'eau de boisson de mauvaise qualité vont pas directement influer sur l'immunité locale, mais sûrement provoquer une moins bonne réponse des veaux vis-à-vis des pathogènes, quoi. Donc je pense que les conditions d'élevage au sens large sont fondamentales.
Au niveau des veaux, je viens de dire que pour moi personnellement, le distributeur à lait automatique était vraiment un distributeur de microbes. Et c'est vrai que quand on fait une vaccination intranasale, il va y avoir une immunité au niveau des sphères oropharyngées. Donc quand le veau boit, il va boire du virus, il va boire de la bactérie, mais il aura les défenses sur place. Alors que si on est sur une vaccination qui est une vaccination par voie générale, des gens vont mettre en place plus tard, le temps qu'elle soit efficace, ça sera encore plus tard. Et donc le veau va se contaminer et sera malade dès son plus jeune âge.